Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de se retrouver dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut accueillir Jésus comme il se doit par une ovation? Alléluia! Seigneur, nous venons t'adorer ce matin. Et nous t'accueillons en ce lieu. Amen. Sois le bienvenu ce matin. Tout ce que nous voulons, c'est que nos cœurs soient attirés à toi, Seigneur. Attire nos cœurs à toi, Jésus. de proximité. Donne-nous la capacité de t'entendre et plus encore de t'obéir. Répandrai ton esprit sur toute chair. Nous avons besoin de quelque chose de neuf, ensemble pour ce que nous vivons, Seigneur, en Église, mais aussi dans nos vies personnelles, dans nos vies privées. un souffle nouveau. Et tu l'as dit dans ta parole, dans Ézéchiel, que tu donnerais un souffle nouveau, que tu donnerais un cœur de chair, que tu ôterais le cœur de pierre. Seigneur, souffle sur ton église ce matin. Inspire. Conseille. Tu es le divin conseiller. Nous vivons un tournant, Seigneur, en église. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, pour la suite. Ce que nous le construisons avec toi. Et nous sommes co-ouvriers. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, parce que tu nous as associés à ton œuvre. Et tu es le divin chef. Tu es notre conducteur. Tu nous emmènes vers de nouvelles sphères. Et nous nous reposons sur toi. Est-ce qu'ensemble on peut élever le nom de Jésus? Tout simplement lui dire que nous l'aimons, que nous voulons le suivre. Seigneur, produis ce vouloir et ce faire. Tout seul, nous n'en sommes pas capables. Aide-nous, produis, fais, dirige, conduis, Seigneur. Nous exprimons notre dépendance. Jésus, un souffle nouveau.
Viens par ta pluie. Enrichis-moi et envoie Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi.
Seigneur, en tant qu'Église, on veut te prier pour un souffle nouveau. On veut te prier de venir renouveler notre passion, notre amour pour toi, renouveler notre courage pour toi, renouveler, Seigneur, notre envie d'aller plus loin avec toi, notre envie de te connaître encore plus, notre envie de marcher encore plus par la foi, notre envie de vivre encore plus, Seigneur, d'action de ta part. On te prie de venir nous renouveler, on a tellement besoin à chaque jour que tu viennes nous remplir. Et ce matin, on veut prier pour cette journée. On veut prier, Seigneur, pour l'IPI. On veut prier pour les membres, Seigneur, qu'on représente. Seigneur, on te prie de venir nous renouveler. On a besoin de toi, Seigneur. Même si on a été fort hier, on est faible aujourd'hui. Puis on a besoin que tu nous remplisses. On a besoin que tu viennes nous renouveler. On a besoin que tu nous aides, Seigneur, pour qu'on puisse encore briller là où tu nous as placés. Pour qu'on puisse encore aimer les gens que tu as placés autour de nous. Pour qu'on puisse encore témoigner que tu es un Dieu grand, qu'un Dieu qui redonne vie. Un Dieu qui souffle, ce souffle de vie qui redonne vie, qui permet sans qu'on puisse expérimenter cette nouvelle naissance, te connaître et ensuite briller pour toi. Viens nous renouveler, Jésus. On va reprendre ce chant, juste un souffle nouveau, qu'on puisse le rechanter encore avec foi, qu'on puisse le rechanter encore avec ce désir, Seigneur. On veut se mettre à nu devant toi. Viens nous remplir, Seigneur. On abandonne la force d'hier, on te demande la force d'aujourd'hui. On te demande ta présence d'aujourd'hui, Seigneur, pour qu'on puisse avancer dans cette journée et faire ce que tu demandes de faire briller pour toi. Qu'on puisse reprendre ce chant ensemble. Un souffle nouveau, Jésus.
Un souffle nouveau.
souffle nouveau. Qui pense qu'on a besoin d'un souffle nouveau de Dieu à chaque jour? Amen, amen. Merci à l'équipe de louange pour ce moment. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à tous, c'est un dimanche spécial, c'est l'AGE qui aura lieu juste après la célébration, mais avant ça, on veut vivre un temps avec Dieu, puis c'est ce qu'on vient de vivre dans la louange, et peut-être c'est la première fois que vous nous visitiez, ben, bienvenue. Bienvenue parmi nous, l'EPI, c'est un peu plus que juste le dimanche matin, on est six différents groupes de vie, on se rencontre, on croit que les relations sont importantes. Relations avec Dieu, mais relations les uns avec les autres. Donc si vous voulez apprendre à connaître des gens, si vous voulez un petit peu voir ce qu'on vit la semaine aussi à l'EPI, n'hésitez pas à aller au point accueil, il y a différents groupes de vie qu'on les appelle, parce que c'est des groupes où il y a de la vie dedans, à travers les relations, à travers cette relation qu'on veut nourrir avec Dieu. Donc n'hésitez pas à aller au point accueil pour vous renseigner, il y a un groupe qui peut vous correspondre. Juste une annonce ce matin, avant de laisser la place à Raymond Pierre pour le message, on a la joie de pouvoir célébrer le dimanche 30 juin plus de 20 baptêmes. 20 personnes, normalement on est censé applaudir là. 20 personnes, plus de 20 personnes qui vont s'engager à travers les eaux du baptême et qui sont à la fin de la formation. Vous savez, là, pour prendre le baptême à l'EPI, il y a une formation de 3 mois. Donc tous les mercredis soirs, ils voient différents modules, vie de disciple, vie spirituelle, enfin les basiques avec la Bible, la prière, la volonté de Dieu, bref, différents modules pour vraiment, ok, oui, j'ai envie de me baptiser. Tout ce que j'ai vu là, ça me conforte dans l'idée que je veux m'engager, je veux témoigner publiquement devant Dieu et devant aussi ma famille, mes collègues, mes amis, que Jésus a changé ma vie et que je veux m'engager avec lui en retour. Et c'est un excellent moment pour inviter des gens aussi, qui ne connaissent pas Dieu, pour entendre l'évangile pour la première fois. Donc n'hésitez pas, le dimanche 30 juin, célébration spéciale baptême, on va vraiment raccourcir le message aussi. On veut mettre l'emphase sur ce que Dieu fait dans les vies. Donc n'hésitez pas à inviter amis, collègues, famille, tout ça, toutes les connaissances autour de vous qui ne connaissent pas Dieu, invitez-les. C'est un moment de réjouissance et c'est un moment où Dieu veut parler aussi au cœur et veut attirer à lui des fils et des filles prodigues. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc dimanche 30 juin, service de baptême. Je ne finis pas mes annonces, je vais inviter Raymond Pierre. On va juste prier pour lui, pour que Dieu nous parle à travers lui. Seigneur, merci pour ce matin. Et on veut te remettre la prédication, on veut te remettre Raymond Pierre, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, que tu puisses lui donner les mots qu'il faut, tu puisses vraiment, Seigneur, le remplir de toi, Seigneur, afin que tout ce qu'il va dire, ça puisse venir de toi et parler à nos cœurs directement. Et viens nous aider par la suite à mettre en pratique ce que tu vas nous dire à travers les messages ce matin. Donc merci pour tout, à toi toute la gloire. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Yes, une église qui est heureuse d'être dans la présence de Jésus pour le louer, pour l'adorer. Le titre que j'ai eu à cœur pour cette célébration, c'est « Un cœur pour bâtir la maison ». C'est vraiment le thème qui s'est imposé à moi lorsque j'ai su que j'étais de prédication pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, déterminante pour l'avenir de notre communauté, pour l'avenir de notre église locale. Ce lieu, cette église, ce bâtiment est le témoin, semaine après semaine, de vie transformée par Jésus-Christ. Jérôme vient de me voler ma punch, mais j'allais en parler, des baptisés. Juste sur cette année scolaire, ça sera plus de 35 personnes qui ont décidé de suivre de Jésus et de s'engager par les eaux du baptême. Yes. Mais ce sont aussi, semaine après semaine, des gens qui sont équipés dans la foi, équipés dans l'étude de la parole de Dieu, formés pour servir Jésus et leur société et leurs contemporains. C'est aussi des gens qui vont recevoir des encouragements dans la foi dans différentes saisons de leur vie. Cette année, c'est plus de 10 personnes qui auront été accompagnées dans la préparation au mariage. Plus de 10 couples, pardon, qui ont été accompagnés dans la préparation au mariage. Mais c'est aussi des accompagnements plus douloureux de certaines personnes dans des saisons de deuil, dans des saisons de séparation. Tout ça, c'est l'Église. Et chaque jeudi, tous les 15 jours, des gens qui sont en situation de précarité sont accompagnés par notre association Enjeu, qui est partenaire de l'EPI pour toute la partie sociale et accompagnement. Et l'organisation et la réalisation de tous ces services sont possibles parce qu'on a une maison, parce qu'on a un bâtiment. Et vraiment, ce matin, en tant que représentant de l'équipe pastorale, on veut vraiment être reconnaissant. Reconnaissant pour votre générosité et votre fidélité. Parce que sans l'investissement des uns et des autres, tout ça, ça serait pas possible. Sans le temps, sans l'argent, sans la prière, sans toutes ces choses dans lesquelles on s'investit tous ensemble, ça serait pas possible. Et pour ça, on veut vraiment vous remercier parce qu'on peut atteindre notre génération par l'engagement des uns et des autres. Mais aujourd'hui, la poursuite de notre mission, elle est menacée par des normes de sécurité qui ont évolué. Et elles ne nous permettent plus d'accueillir les gens de manière sécurisée dans ce lieu. C'est pourquoi il y a une obligation de mise en sécurité qui nous a été imposée pour pouvoir poursuivre notre mission. Et je vais citer la phrase que l'équipe a mise dans le petit recueil que vous avez eu sur le projet On Reste, qui dit la chose suivante, d'être une communauté enracinée dans la foi, accueillante, formant et envoyant des chrétiens dévoués à œuvrer positivement pour le bien de Strasbourg, l'Eurométropole et au-delà. Alors après avoir étudié différentes pistes, que ce soit le déménagement dans des locaux existants, une nouvelle construction ou des travaux, le conseil d'église qui est composé de l'équipe pastorale, du conseil spirituel et du conseil d'administration a trouvé bon de faire des travaux ici, de vous proposer de faire des travaux ici aux 7 rue des Frères Hébert parce que c'était l'option la plus simple, la plus réaliste et la plus viable. Et c'est comme ça que ce projet On Reste est venu entre vos mains il y a un mois. C'est comme ça qu'il vous est parvenu, afin que, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous puissions décider de l'avenir de l'EPI et de s'engager à participer dès aujourd'hui. Parce que oui, ce projet de bâtir, de rebâtir la maison où le peuple de Dieu s'assemble, où le peuple de Dieu se rencontre, ça n'a rien de nouveau pour le peuple de la foi en Christ. On a plusieurs exemples dans la Bible où la communauté de foi a été invitée à participer et à s'engager à la construction d'une maison, d'un lieu de rencontre, d'un lieu de connexion entre elle et son Dieu. C'est dans le livre de l'Exode que je veux vous amener ce matin, lorsque le peuple d'Israël a été invité et conduit par Dieu à lui construire une demeure, un lieu de culte central du peuple, après qu'il l'ait délivré de 400 ans d'esclavage en Égypte. On va lire tout le texte ensemble ce matin, c'est dans Exode 25, les versets 1 à 9. Et le texte nous dit la chose suivante, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ce passage que nous allons étudier ce matin nous présente trois principes pour bâtir la maison, pour bâtir la maison de Dieu. On verra que pour bâtir la maison de Dieu, il nous faut de la générosité, une offrande de cœur. Ensuite, il nous faut un sacrifice, une offrande de valeur. Et surtout, et enfin, une vision, celle d'établir la demeure de Dieu dans les cœurs. Premier principe que je veux soulever avec vous ce matin, la générosité, une offrande de cœur. On relit les versets 1 et 2. « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Alors que le peuple de Dieu est en pérégrination dans le désert, en direction vers le pays promis, mais pas encore arrivé, Dieu aspire, désire à régner au milieu de son peuple, qu'il vient juste de libérer du fouet des Égyptiens, qui vient de libérer des lourds travaux que les Égyptiens leur imposaient en esclavage. On voit que Dieu désire cheminer avec eux et leur demande de construire un sanctuaire, un tabernacle. Alors il s'agissait d'une tente portative qui était facilement démontable pour un peuple qui vivait à ce moment de son histoire en itinérance. Le terme tabernacle a la même racine que le mot hébreu, que le verbe habiter, qui nous donne le mot demeure ou habitation. On va juste vous projeter une photo du tabernacle, c'est juste pour vous donner un peu une idée. Alors vous avez le parvis et ensuite vous avez la tente qui était composée du lieu saint et du lieu très saint. C'était juste pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Évidemment, il n'existe plus, mais c'est pour vous aider à visualiser. On reviendra plus longuement sur le tabernacle dans mon dernier point. Mais ce que je veux juste soulever ici avec vous ce matin, c'est que pour bâtir la maison de Dieu, ça prend une offrande qui vient du cœur. Le cœur, c'est le centre de nos décisions et de nos actions. Dieu veut nous rendre participants avec lui de l'œuvre qu'il veut faire dans les vies. À savoir, se révéler, c'était son désir, je veux être au milieu du peuple, se révéler, que les gens le connaissent comme leur Dieu. Alors si dans ce texte ça nous montre que la construction de la maison, elle passe par nous, elle ne s'impose pas. Le commentaire New American Commentary sur Exodus, sur le livre de l'Exode, nous dit « Ce passage parle de la nécessité de contribution volontaire, établissant un modèle d'adoration qui a toujours caractérisé la religion biblique. Bien que Dieu lui-même puisse fournir tout ce qui est nécessaire à ses desseins, y compris son culte, il a délégué à son peuple l'opportunité de le faire et lui a ainsi donné le don d'expérimenter la générosité et l'abnégation, ainsi qu'un sentiment d'implication directe dans sa relation essentielle et permanente avec lui. » Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu n'utilise pas la pression ou la manipulation avec son peuple. Il va lui présenter le besoin et il va les inviter à contribuer. L'offrande, elle était demandée à tous, mais elle était exigée uniquement de celles et ceux qui étaient prêts à donner. Tony Merida, qui est un théologien qui a fait un commentaire sur l'Exode d'une façon christocentrée, donc centrée sur Jésus, dira la chose suivante: les instructions pour le tabernacle débutent avec un examen de cœur. Dieu se préoccupe d'abord et avant tout du cœur. Il a demandé aux gens de contribuer par leurs ressources pour faire de ce qui serait sa demeure parmi eux. Dieu ne vous force pas à adorer et à donner, mais il vous appelle à le faire. Le libérateur d'Israël propose à ceux qui ont été rachetés de l'esclavage, à ceux qui ont été mis à part pour lui, de contribuer par une réponse de cœur. Parce que Dieu leur a fait un don, le don de la libération, il les invite à faire le don de la libéralité, de venir s'engager. Et je crois que c'est cette même réponse que Dieu attend de la part de son peuple racheté ce matin ici à l'Épi à Strasbourg. Cette même réponse de cœur, ce peuple qui a été libéré du mal et du péché, afin que le nom de Jésus puisse continuer à être élevé, que son nom puisse toujours régner au milieu des louanges de son peuple rassemblé ici à Strasbourg. Maintenant, je vais vous donner deux mauvaises raisons de cœur de donner. Elles sont données par Jimmy Munson, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'argent, Dieu ou don de Dieu ». Et une de ces raisons, c'est « Ne donnez pas afin d'acheter la faveur de Dieu ». Le don n'est pas une transaction destinée à acheter l'amour, à acheter la bénédiction, à acheter la sanctification, à acheter la guérison de la part de Dieu. Donner dans le but de recevoir, mes amis, ce n'est pas un don, c'est un investissement. Et il y a des spécialistes de l'investissement au milieu de nous ce matin. In fine, quand on investit, ce n'est pas que le projet de Dieu est au centre. C'est le nôtre qui est au centre, puisqu'on donne dans le but de recevoir. Ton intérêt, ce n'est pas le développement du royaume de Dieu, c'est ton développement personnel. J'ai rien contre les coachs de vie ici. C'est quel est le focus, quel est l'enjeu. Un deuxième point, une deuxième mauvaise raison, c'est de donner pour tirer gloire. Là encore, mes amis, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on regarde la longue liste des milliardaires philanthropes, ils portent tous des fondations à leur nom. Et là, on se dit, ah, ils sont quand même riches, et ils sont tout le temps en train de tirer la couverture sur eux, Bill Gates et puis tous les autres, hein, je n'ai pas tous les noms en tête. Mes amis, on est exactement comme eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches que du coup, ils sont égoïstes. On est tous égoïstes. Regardez cette citation encore. Qu'il s'agisse d'un sourire reconnaissant de la part de la serveuse, d'une dizaine de j'aime sur notre page Facebook ou Instagram, ou notre nom qui figure dans le titre d'un organisme de bienfaisance, nous donnons pour qu'on nous acclame, qu'on nous manifeste de la gratitude, qu'on nous applaudisse et pour acquérir une certaine notoriété. En clair, nous voulons recevoir des autres l'adoration que seul Dieu mérite. Nous sommes des voleurs de gloire et pourtant pas une miette ne nous appartient au propre. Pas une miette ne nous appartient au propre. C'est quoi ma motivation de cœur ce matin? Quelle est ma motivation pour servir Dieu? Je vais vous donner maintenant deux bonnes raisons. La première, c'est de donner comme un acte de louange à Dieu. Mes amis, Dieu nous donne la vie. Jésus nous donne sa grâce. Jésus nous donne son pardon. Jésus nous donne sa libération du péché. Jésus pourvoit à nos besoins. Jésus donne des enfants aux parents. Jésus donne des maris à leurs épouses. Ça va les épouses? Vous êtes contentes? Jésus donne des épouses aux maris. Oui. Il donne le Saint-Esprit aux chrétiens pour les diriger et les conduire. Il donne le réconfort et la prière. Il donne la foi et l'espérance. Il nous accorde la sagesse et l'amour. Il nous adopte dans sa famille afin de nous donner tout ce qu'il possède pour l'éternité. C'est lui qui mérite la gloire et notre adoration lorsqu'on considère d'où il est venu nous tirer. Est-ce que vous avez envie de chanter ce matin? Souvenez-vous de ce chant « Compte les bienfaits ». On peut le chanter ensemble? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Est-ce qu'il y a une église qui croit aux bienfaits que Dieu vous accorde? Yes. Et enfin, on peut donner pour être béni. Et là, je suis pas en train de dire l'inverse de ce que j'ai dit avant. Si on a dit juste avant que nous ne donnions pas dans le but de recevoir, mais qu'on le fait par amour, nous avons, mes amis, la certitude que Dieu prend soin de nos différents besoins. Je parle bien ici de besoins et non de tous nos désirs. Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin et il promet d'en prendre soin. C'est ça la réalité. Dieu s'occupe de nos affaires et nous sommes invités à participer avec lui aux siennes. Amen. La Didaké, qui est un des premiers documents chrétiens après l'ère des apôtres, a dit la chose suivante. N'aie pas les mains tendues quand il s'agit de recevoir, mais fermées quand il faut donner. N'aie pas les mains tendues quand il s'agit de recevoir, mais fermées quand il faut donner. Le don, mes amis, c'est une réponse de cœur, c'est-à-dire du siège de nos motivations. Et lorsque nous sommes motivés, mes amis, on n'a pas envie de donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est mon deuxième point ce matin. Un sacrifice, une offrande de valeur. On continue la lecture, versets 3 à 7. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, cramoisi, fin lin, poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. On voit ici que le peuple a eu l'occasion de contribuer personnellement et librement à la construction au moyen de 14 matériaux différents. Alors on ne va pas s'attarder ce matin sur chacun de ces matériaux, mais juste de regarder la valeur qu'ont ces derniers. Vous savez, mes amis, la valeur, comment on détermine la valeur? C'est le prix qu'on est prêt à donner. C'est le prix qu'on est prêt à mettre pour une chose. Une offrande de cœur, c'est quel est le prix que je suis prêt à donner pour celui qui a sauvé ma vie? Quel est le prix? Ici, on voit que Dieu a demandé des matériaux uniques et précieux qui demandaient un sacrifice. Le dictionnaire biblique Emmaüs, alors désolé, j'ai un dictionnaire de 1970 au bureau, dit la chose suivante, on a estimé la valeur de tous ces matériaux à environ 5 millions de francs. Alors pour tous ceux qui sont nés après 2002, et pour ceux qui commencent à perdre un peu la mémoire, ça correspond en euros à 762 245 euros. Alors vous allez dire, oh ben ça va, par rapport à notre projet bâtiment, c'est beaucoup, beaucoup moins. Les gars, on parle d'une tente, hein. On ne parle pas d'une maison, là. On parle d'une tente. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'excellente qualité des matériaux précieux utilisés témoigne de la grandeur et de la transcendance de Dieu. Notre Dieu, il est au-dessus de tout, il est le tout autre par rapport à sa création. Quand on voit les couleurs bleues, pourpre et cramoisie, c'était les couleurs royales. De la même manière, le fin lin, c'était un tissu exceptionnel, de grande qualité, qui était souvent utilisé par le pouvoir royal égyptien. Mes amis, le point est le suivant, nous ne sommes pas invités à donner du superflu, mais nos dons doivent nous coûter quelque chose. Et là, je vais donner une nouvelle mauvaise raison de donner les restes à Dieu. Pourquoi ? Lorsqu'on offre de notre superflu, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, lorsqu'on donne nos restes à Dieu, on est en train de souligner que finalement, ce qui nous apporte la sécurité pour notre vie, c'est l'argent et notre capacité financière qui pourvoient à notre bien-être et non pas Dieu, lorsqu'on donne de notre superflu. Mais lorsque nous offrons les prémices, lorsque donner va nous coûter, nous sommes en train de souligner que notre confiance quant à notre sécurité pour vivre s'est placée en Dieu seul. Mes amis, Dieu nous aime et Dieu veut que nous placions notre confiance en lui et non pas dans notre porte-monnaie. Comme on a vu tout à l'heure, c'est Dieu le pourvoyeur. C'est intéressant de noter que les ressources données pour bâtir le tabernacle n'étaient pas leurs propres ressources. Ils étaient autrefois le matériel des Égyptiens. Dieu a tenu sa promesse et a envoyé les Israélites hors d'Égypte avec de grandes richesses. C'est Dieu qui a fourni ses biens. Maintenant, le peuple doit rendre une partie de ce qui lui a été fourni. Mes amis, c'est un message fort. Par ce passage, Dieu nous rappelle que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous vient de Dieu. L'orgueil aime à nous faire croire que nos réussites, nos succès viennent parce qu'on a travaillé fort et de manière acharnée. Laissez-moi vous dire que nos ressources, nos capacités, nos dons, même notre intelligence nous a été donnée par Dieu. Et si on en est là où on en est, si on est dans la réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit encore relationnelle, c'est parce que le Dieu qui pourvoit nous accorde sa providence. C'est que le Dieu qui pourvoit nous accorde sa grâce. Tony Mérida dira encore la chose suivante, il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous donnons de nos ressources, mais ce sont des ressources que Dieu nous a confiées. Parfois, notre avarice, quant à l'argent, notre temps et nos talents, démontre que nous ne le croyons pas. Lorsqu'on est radin avec nos dons, nos talents, nos finances, nos prières, etc., on est en train de dire finalement, je ne crois pas que c'est Dieu qui m'a accordé tout ça. C'est à moi, et c'est moi qui vais décider comment je vais goutte à goutte distribuer. Ça montre que le Dieu n'est pas au centre, mais c'est nous qui sommes au centre et c'est nous le patron. Là, il y a une invitation à autre chose. Et mes amis, Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, mais il nous demande de multiplier ce qu'il nous a déjà donné. On le voit ici avec l'exemple du bois d'acacia. C'était un bois commun dans la péninsule du Sinaï et un bois qui était résistant aux insectes. Mais c'était un bois qui était là où ils étaient en pérégrination. Mes amis, Dieu ne va pas te demander l'impossible. Il ne va pas te demander de donner ce que tu n'as pas. Mais il est là dans notre réalité. Là, il était dans la réalité du peuple. C'était les matériaux qu'ils avaient. Et puis, il fallait des gars pour aller le couper. Ben, c'était aussi leur offrande. Ça. Il fallait aller couper le bois. Mais il ne te demande pas des choses impossibles. Il te demande des choses dans ta réalité, dans ce que tu vis au quotidien, pour permettre à son œuvre de se faire. Ils étaient dans le désert et c'était les seules ressources à leur disposition. Alors, je le crois, oui, vous avez tous lu le projet On Reste. Oui, il y a un pas de foi financier, il y a un pas de foi humain qui est derrière. Mais je crois littéralement que pour voir le miracle, il nous faut sortir de la barque de nos idées préconçues. Mes amis, la multiplication ne peut s'opérer qu'à partir du moment où je suis prêt à relâcher ce que j'ai entre les mains de Dieu. Vous savez, le multiple de zéro donne toujours zéro. Tu peux mettre un gros chiffre que tu multiplies par zéro, ça donnera zéro. Par contre, à partir du moment où l'on donne quelque chose, une capacité exponentielle est possible par la multiplication que Dieu veut opérer. Je veux entendre un amen ce matin. Dieu est capable. Et je le crois. Oui, Dieu désire encore manifester sa gloire à l'épi. Merci pour les trois qui y croient. Dieu veut encore manifester sa gloire à l'épi. Il veut encore atteindre les générations qui vont nous suivre. Il veut toujours faire de ce rassemblement un lieu où il manifeste sa gloire. Et ça nous amène à mon dernier point ce matin, une vision, la demeure de Dieu dans les cœurs. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Notre passage s'achève avec ce rappel du désir de Dieu, un sanctuaire pour vivre au milieu de son peuple. Le terme sanctuaire vient de l'hébreu Mikdash, qui signifie le lieu sacré, le lieu saint. Il s'agissait d'un lieu mis à part pour le culte de Dieu. C'est l'endroit où on allait adorer Yahweh l'Éternel. Ce sanctuaire symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. C'était le lieu de rencontre, c'était le lieu de connexion, où Dieu rencontrait le peuple et ses chefs, et où la gloire se manifestait. En fait, c'était le centre visible du culte de Dieu. Et c'est intéressant de noter que les premiers sanctuaires en Israël ont toujours été mis là où Dieu s'était fait connaître à son peuple, ou bien là où il avait fait habiter son nom. Ils ont toujours construit quelque chose à l'endroit où ils ont vécu quelque chose avec Dieu. J'aimerais ce matin vous rappeler à votre bon souvenir. J'aimerais rappeler quelque chose à votre mémoire ce matin. Comment Dieu s'est révélé à vous sur les 10-20 dernières années pour les plus vieux ici à l'EPI, dans votre communauté, de vous remémorer peut-être les expériences fortes que vous avez faites avec Dieu à l'EPI, au Faubourg de Pierre ou Grand Rue pour les plus anciens. Peut-être que certains ont vécu les plus beaux moments de votre vie à l'EPI. Peut-être votre rencontre avec Jésus. Peut-être une guérison divine. Peut-être la rencontre de votre conjoint, de votre conjointe. Peut-être le baptême de vos enfants qui se sont engagés avec Jésus. Pour d'autres, vous avez peut-être expérimenté le soutien et le courage dans une saison difficile que vous avez traversée. Vous avez expérimenté la présence de Dieu qui ne vous a pas forcément libéré de l'épreuve, mais qui vous a pris par la main et vous a aidé à la traverser. Puis aujourd'hui, vous regardez en arrière et vous dites « Dieu a été fidèle ». J'aimerais vous ramener à ce lieu de rencontre, à ce lieu de témoignage de ce que vous avez vécu avec Dieu. L'EPI a été votre lieu de rencontre avec Dieu. Un des lieux de rencontre, certainement plusieurs. À l'EPI, j'ai pu vivre, vous savez bien, il y a 2 ans en arrière, quand mon épouse était malade. Le soutien des frères et sœurs. Mais aussi la présence de Dieu dans des moments de louange parfois où j'y croyais plus. Et je me disais, mais comment ça va être dans 2 ans où j'arrivais même pas à me projeter? Aujourd'hui, on est là avec mon épouse, elle sert en bas et je remercie Dieu pour ça. Dieu a été fidèle. Dans les moments difficiles, il m'a pris par la main. J'aimerais ramener ce souvenir à votre esprit ce matin. Vous savez qu'un des noms du tabernacle, c'était aussi la tente de la rencontre. Vous avez rencontré, expérimenté Dieu. La tente, c'était leur maison spirituelle au peuple. Pour nous, ça ne nous parle pas trop, une tente. On dit une tente, qu'est-ce que c'est? Pour nous, une tente, c'est le camping cet été qu'on va réserver dans quelques jours. Peut-être que certains ont pris de l'avance. Pour d'autres, c'est la tente, le chapiteau qu'on va mettre parce qu'on va se marier cet été. Puis on a besoin d'un chapiteau. Mais pour le peuple hébreu nomade, ça voulait tout, dire tout autre chose. C'était leur maison. C'était leur maison. Ce tabernacle, portatif signifiait une seule chose. Dieu veut voyager et cheminer avec nous. La leçon portant sur le tabernacle dans le cours Insté qu'on donne ici à l'EPI, c'est l'Institut de théologie par extension, dit la chose suivante. Le but de Dieu était d'ouvrir un chemin pour que les hommes puissent s'approcher de lui. Le tabernacle dans le désert préfigurait la personne de Jésus, mais aussi l'Église, et enfin notre demeure future avec lui. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher, puis si le piano peut commencer à jouer. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin d'un tabernacle ou d'un temple physique pour être au milieu de nous. Il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il est venu pour donner sa vie à la croix et il a habité parmi nous. Jean dira dans son évangile, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Le terme littéral, c'est tabernaclé. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lorsque Jésus a offert sa vie, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, Jésus nous a envoyé, pour ceux qui croiraient en lui, son esprit, pour faire de nous son temple, sa maison. C'est Paul qui le dira dans 2 Corinthiens 6,16. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et il a appelé ce peuple l'Église, Ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? C'est le rassemblement de tous ceux qui ont été mis à part pour Dieu. C'est le rassemblement. Alors oui, je crois que si chacun d'entre nous sommes des temples de Dieu, puis beaucoup vont dire ça, j'ai pas besoin d'église, je suis l'église. La Bible nous dit que l'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont les temples de Dieu. Une communauté visible qui se rassemble pour annoncer, pour proclamer, pour élever le nom de notre Sauveur Jésus qui est présent et se manifeste encore lorsque nous nous rassemblons en son nom. Ni aujourd'hui, ni hier avec le peuple hébreu, Dieu avait besoin d'une maison pour être présent. Mais il l'a fait pour que nous prenions conscience de notre besoin de lui. Regardez encore ce commentaire de New American Commentary qui dit « Ce n'est pas que Dieu ait besoin d'un bâtiment avec une cour pour habiter quelque part. C'est qu'il souhaite que le peuple fasse de lui sa maison, qu'il place leur maison tente autour de sa maison tente et qu'il le rejoigne régulièrement dans sa cour pour les repas de l'Alliance, confirmant ainsi leur relation permanente et recevant les bénédictions qui sont itinérantes. » Alors oui, mes amis, je crois qu'un lieu de rencontre est encore significatif en 2024. Non seulement pour élever Jésus, mais parce qu'il désire encore se révéler et rencontrer des vies. Il désire encore rejoindre des situations au milieu de nous, en nous et au travers de nous. Parce que oui, nous avons été appelés à être ses pieds et ses mains en action. Notre ville de Strasbourg et ses habitants, l'Alsace, notre région, notre nation, ils ont besoin d'identifier encore des lieux de sa présence visible de Dieu. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'Épi. On est toutes sortes d'églises sur la place de Strasbourg. Mais il y a besoin de lieux de présence visible pour que chacun d'entre nous, pieds et mains de Jésus en action, puissions faire la différence. Mes amis, on ne peut pas garder tout ce dont nous avons été bénéficiaires au travers de l'Église. Mais je crois que nous sommes la génération appelée à poursuivre ce que nos pères ont bâti, afin de permettre aux générations futures de pouvoir faire la paix, de pouvoir faire alliance, de pouvoir recevoir Jésus, de pouvoir recevoir son encouragement, ses forces, sa vie, sa direction, son esprit pour leur quotidien. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui veut s'engager dans l'enjeu et l'opportunité qui se dresse devant nous? Est-ce qu'il y a un peuple qui a à cœur de poursuivre l'œuvre de Dieu pour bâtir un lieu où des pierres vivantes vont se rassembler, pour être encore les témoins de ce que Dieu veut faire en 2024, où Dieu veut encore opérer du salut, Dieu veut encore opérer la libération dans un monde qui a tant besoin d'entendre parler de lui? Je ne sais pas si vous êtes abonné aux chaînes d'infos en continu, mais quand on regarde ce qui se passe autour de nous, ça fait peur. Et mes amis, notre Dieu est sur son trône. Notre Dieu désire se révéler, notre Dieu désire se manifester, notre Dieu désire rejoindre des gens et il nous a choisis chacun d'entre nous pour le faire avec lui. Est-ce qu'on veut être ces pierres vivantes ce matin ensemble? Je crois que comme il y a eu un appel à la sortie d'Égypte à des hommes et des femmes de bonne volonté à bâtir une maison de rencontre et une maison spirituelle, je crois que Dieu appelle des hommes et des femmes à se laisser interpeller encore ce matin et se lever pour poursuivre l'œuvre de Dieu sur l'Épi, à Strasbourg et dans l'Eurométropole. Y a-t-il une église ce matin qui veut se lever et s'engager pour ce défi? Une église qui se lève pour démontrer par leur générosité que c'est Dieu leur sécurité, mais aussi le centre de nos intérêts et de nos vies? La suite du livre de l'Exode va nous raconter que le peuple a tellement répondu à l'appel qu'il y avait trop. Et à un moment, Moïse, il a dit stop, arrêtez d'envoyer. Exode 36,7 nous dit, les objets préparés suffisaient pour les travaux à réaliser et il y en avait même trop. Je crois ce matin que Dieu ne s'est pas trompé dans la saison dans laquelle nous sommes là tous ensemble. Il ne s'est pas trompé, malgré les difficultés qui peuvent être là et puis tous les calculs qui peuvent nous envahir. Je crois que le défi est grand. Mais Dieu nous appelle à nous engager pour voir sa provision et sa multiplication. Je prie que Dieu puisse trouver le chemin de nos cœurs ce matin. Alors que je vous invite, pour ceux qui sont d'accord avec ça, de se lever pour dire, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduis-nous, dirige-nous. Nous voulons ce matin, Seigneur, être cette église qui prend conscience des temps dans lesquels tu nous as placés. N'est-ce pas pour cette saison que tu nous as appelés, Jésus ? Seigneur, avec mes bien faibles contributions, Seigneur, ce matin, je veux me déposer encore devant toi et te dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Dirige-moi, conduis-nous en couple aussi pour les finances, pour savoir quoi investir, ce que tu attends de nous individuellement, afin que notre mission puisse continuer de fonctionner, que des vies soient rencontrées, que le nom de Jésus soit manifesté, que des malades soient guéris, que des oppressés soient libérés encore dans ce lieu et par l'intermédiaire de tes pierres vivantes, de tes pieds et tes mains qui sont là partout dans cette salle. Seigneur, on veut répondre à ton appel ce matin. Dirige-nous, Père. Conduis-nous, Seigneur, pour faire de nous ce que toi tu as décidé, pour faire de nous de ce que toi tu veux, Jésus. Nous voulons être des instruments entre les mains du potier ce matin. Façonne-nous, conduis-nous, dirige-nous, Père éternel. Dépose des certitudes et des convictions dans nos cœurs, dans les prochains jours, les prochains mois, Père. Même dans le vote qui va prendre place dans quelques instants, dépose une certitude dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, nous croyons que tu es le chef de l'Église. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas pris au dépourvu par les circonstances. Et nous croyons que ce que tu as décidé, tu vas l'accomplir parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors Seigneur, en tant qu'Église, on se lève devant toi ce matin pour répondre à ton appel. À toi la gloire, Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça, disent un grand Amen.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Des quatre vents, il descend sur nous. Envoie ta puissance pour nous les témoins d'un royaume qui se répand et brûler nos cœurs au sein des ténèbres. Dans l'océan, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. De l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant.
souffle des quatre vents et descend sur nous.
Un, deux, un, deux. Je pense qu'on peut faire mieux et applaudir celui qui est généreux envers nous depuis toujours. Yes! Merci Raymond Pierre pour le message. Je pense qu'on est tous challengés ce matin, un cœur pour bâtir la maison. Juste une toute petite annonce pour ceux qui n'ont pas encore émergé. C'était jusqu'à 10h15. Émergé. Excusez-moi. C'est mon petit côté québécois qui ressort, je pense, au niveau français. Émergé. Vous pouvez encore le faire maintenant. La GE va commencer à 11h10. Donc il reste encore quelques minutes pour aller émarger, signer et puis montrer que vous êtes présent. Il n'y aura pas d'espace écouter prière ce matin. On veut vraiment mettre l'emphase sur la GE. Donc on a une pause de quelques minutes et la GE va commencer à 11h10. Donc pour ceux, pour les membres, on vous demande vraiment de rester. Vous pouvez aussi tous rester, mais pour ceux qui souhaitent partir et puis aller passer la fête des pères peut-être en famille, on vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve à 11h10 pour tous ceux qui participent à la GE.